Notre invité du jour est un chanteur canadien qui ne hurle pas, un enfant de la guerre qui combat avec les mots, un homme qui a le nom d'un très grand auteur de théâtre mais qui ne vous fera jamais bâiller. Ah. Aujourd'hui, le chanteur Corneille est notre invité.
Ouais. C'était pas cool, un chanteur canadien qui ne hurle pas. Il y en a pas mal qui ne hurle pas.
Bonjour Corneille.
Bonjour.
En fait, Corneille, c'est votre vrai prénom ?
Non, pas vraiment. Alors, je suis grillé. Alors, non, je suis né. Et vous allez comprendre. Je suis né Cornelius.
Cornelius.
Ouais, Cornelius. Alors, c'était pas facile à porter. À l'âge de 7 ans, j'ai décidé de le changer. Donc, sur mes cahiers de devoirs, je commençais tranquillement à écrire ce qui me semblait une traduction normale de Cornelius. Donc, Corneille. Et je ne connaissais ni l'oiseau ni le dramaturge, mais ça sonnait bien.
Vous savez pourquoi on vous a donné ce prénom, Cornelius, alors?
Cornelius, pas trop, non. Pas, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Je sais que c'est tout ce que je sais, c'est que c'est le nom qui est sur mon
carte d'identité.
Même pas sur ma carte d'identité, sur mon certificat de naissance allemand, puisque je suis né en Allemagne.
Vous êtes né en Allemagne. Ouais.
Et depuis l'âge de 7 ans. Plus personne m'appelle Cornelius, sauf mon épouse quand elle est fâchée, mais autrement.
Ah oui, c'est horrible. Quand elle est fâchée,
vous avez mis Cornelius dans le nom dans vos albums. Birth of Cornelius.
Hein. Ah bah oui, mais justement, c'était un clin d'œil. C'était parce que c'était un album un petit peu renaissance. Je voulais m'approprier ce prénom, mais personne m'a jamais vraiment appelé Cornelius.
Elle est souvent fâchée, votre épouse, Cornelius.
Non, ça arrive rarement. Ça arrive rarement, mais quand ça arrive, c'est c'est Cornelius.
Quand on entend le prénom, il fallait mourir dans le placard.
Elle est portugaise, votre femme.
Elle est moitié portugaise, moitié canadienne, ouais.
Et mannequin, chanteuse, ouais. Belle.
Wow. Très belle, très, très très belle.
Donc on l'aime pas, quoi.
il se peut qu'on l'aime pas. Moi, ça fait mon affaire.
Ça a été tout de suite le coup de foudre avec votre femme, Corneille, quand vous l'avez rencontrée ?
Oui, tout de suite. Ça fait 13 ans qu'on est ensemble. Et
elle vous a redonné la joie de vivre, en fait.
Ouais, c'est une des rares fois où j'ai une certitude. Il n'y avait aucun doute. Alors c'est très étrange comme phénomène. On rencontre quelqu'un et on sait. Moi je le savais, elle aussi. Donc ça
oui, pourtant, ce qui est bien, c'est de savoir à deux, parce que savoir ça...
Moi aussi, ça m'arrive. Hein, j'en vois des femmes, je me dis, tiens, c'est elle.
Hein. moi, je vois Jean-Philippe et je me dis,
tu vas te détendre. C'est pas vrai, ça.
Oui, des fois...
Il faut que ce soit réciproque. Ouais,
c'est
ça.
Vrai que des fois, on croit qu'on sait. Et
des fois, on s'imagine que... Même pendant longtemps. Il y en a qui s'imaginent pendant des années. En fait, non.
C'est ça.
C'est drôle.
Et là, c'était à double tout de suite.
Ouais,
mais
de suite,
attention, vous dites quand même que vous l'avez rencontrée, elle était en couple et qu'elle vous a pas calculé.
Non, ah oui, ça c'était une rencontre, c'était pas vraiment une rencontre, on s'est croisés sur un plateau de tournage.
Et vous l'avez remarqué.
Ouais. Moi je l'ai remarqué, mais je ne savais pas encore. C'est-à-dire qu'elle m'a tapé dans l'œil, mais je n'avais pas cette certitude de. Je pense que je vais passer le reste de ma vie avec elle. On s'est croisés en fait sur un plateau.
Vous avez dit elle est mignonne.
De tournage. Je me suis dit elle est canon, mais peut-être que j'ai pas le niveau encore. Donc je me suis laissé 2 ans pour mûrir. Et après 2 ans plus tard, j'étais.
Vous
j'étais
êtes revu chez des amis.
Elle
vous a donné son téléphone et vous êtes appelé toute la nuit.
Ouais, on a parlé toute la nuit et c'était.
Au téléphone.
Quel gâchis.
À l'époque, ça fait longtemps. Hein. Non, mais il fallait aller doucement, parce qu'elle n'est pas bête, la fille. Donc,
ouais,
je savais très bien que ça allait. Il fallait bosser un petit peu. Mmh. Et,
vous avez bossé combien de temps alors?
Une petite semaine peut-être.
Ah ouais, ah bon,
ça va.
Une
semaine.
Ça va.
Et encore, on aurait pu conclure beaucoup plus tôt, mais bon, c'est.
Vous avez été très patient quand même.
Une semaine.
Très patient.
Lui tiendrait pas une semaine.
Ah ben non. Mais moi, il y a des dossiers, ça fait des années que je bosse sur des dossiers.
Et pas de conclusion.
Ah bah, rien du tout.
Ah mince alors.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on peut faire?
Vous avez changé de coupe de cheveux, Corneille, là.
Bah oui, mais attends, un afro à 40 ans...
Vous va bien.
Merci, mais ça a pris du temps, hein, parce qu'on ne l'a pas accepté. Les fans n'ont pas...
Moi, je vous aimais mieux avant.
Ah ouais,
vous préfériez la touffe
votre laque de cheveux avant.
Ah oui.
Ah bah alors.
Bah alors, faudra faire repousser spécialement pour
ça. Non, mais je trouve ça moins sensuel, vous voyez. Ah je trouve ça plus là, bon.
Ah ouais. Ah
bah ça fait un peu père de famille, je sais pas.
Bah, en même temps, ça tombe bien parce que c'est ce que je suis.
Non, mais
donc je suis cohérent.
Non, mais je vous trouvais plus sexy avec les autres cheveux.
C'est vrai.
Ouais. Non, parce qu'elle aime bien tirer les cheveux.
Pas mon public non plus.
Je suis pas votre public.
Non, peut-être non. Vous êtes. Ouais.
Vous vous vouliez dire qu'elle est trop vieille. Non mais dites-le.
Oh non, je le trouve beaucoup moins sympathique ce corneille.
Bah non mais j'arrive tout de suite, elle me flingue, mais je suis pas sexy, je suis pas...
Ah non, vous êtes sexy mais moins qu'avant.
Moins qu'avant. Mais ça va, c'est un autre sexy, c'est un sexy poivre et sel et
voilà. Plus papa quoi,
sexy plus papa. Mais ouais. Ah. Bah, alors je comprends pas le problème avec le c'est comme si avec l'âge on cesse d'être séduisant, c'est triste quand même.
Non, mais non.
Corneille, ça peut vous rassurer, moi j'aime toujours.
De toute façon, pour être très honnête, ton avis m'importe plus. Ah
Corneille, vous avez participé à Danse avec les Stars, c'est un bon souvenir ou vous avez encore des courbatures?
Non, ça va, les courbatures, ça va. Hein. Mais c'était un bon souvenir. Pas pendant l'émission. L'émission, il y a eu des moments où je me disais, mais pourquoi je fais ça? Et après, en fait, c'était une super expérience. Et on habite son corps quand on danse, en fait. Moi, quand j'étais gamin, je dansais beaucoup et j'ai cessé de danser. Même sur scène, je bougeais de moins en moins.
Et là, du coup, ça vous a donné envie de rebouger sur scène?
Et là, je rebouge. Alors, j'ai plus d'afro, mais je bouge plus. Donc, venez me voir en concert.
Vous écrivez avec votre femme, Corneille, les paroles?
Ouais. Depuis un certain temps déjà. Et on écrit pour moi, pour d'autres artistes. Ouais.
Vous n'êtes pas très narcissique pour un artiste, Corneille, je trouve.
Avec tout ce que tu lui as dit tout à l'heure.
Je suis obligé d'être calmé aussi.
Tout ce qui s'est pris dans la tronche, le pauvre.
Je suis obligé d'être modeste avec tout ce que je me suis pris. Merci d'ailleurs pour la leçon. Merci.
Vous la péter un peu plus, Corneille. Hein.
Non,
pourquoi?
Bah écoutez, faites-moi une nouvelle intro où vous me dites que je suis.
Cette coupe est magnifique, ça vous sublime votre beauté.
Merci. Pas du tout crédible, mais merci.
C'est bien tenté.
Ben H a des choses à vous dire, Corneille.
Oui, Corneille. Donc vous êtes avec nous ce midi à l'occasion de la sortie d'un nouvel album, le 9e déjà. Ça fait déjà plus de 15 ans que vous connaissez le succès dans Hexagone. Et pas n'importe quel succès, parce que selon une étude menée par l'Institut de moi-même, vous êtes aujourd'hui plus connu par les jeunes que Pierre Corneille. Et pourtant, lui, il a des collèges et des lycées qui portent son nom, c'est de la triche.
Ah, ça, j'en suis pas fier, par contre. Alors,
mais c'est pas de votre faute.
Je vous ai à aucun moment demandé d'être fier. Hein.
Ah, je pense que vous m'avez rien demandé, en fait. Je me la ferme.
Non, intervenez quand vous voulez. Mais lui, il a des collèges et des lycées, mais c'est vrai qu'à sa décharge, lui, ça fait 400 ans qu'il n'a pas sorti un truc. Soit environ la même productivité que Michel Polnareff. Alors, en revanche, si ça peut vous faire plaisir, selon cette même étude, cher Corneille, vous êtes déjà bien plus célèbre que l'expression bailler au Corneille. Expression largement tombée en désuétude et utilisée uniquement par Emmanuel Macron pour qualifier l'attitude de son gouvernement. Corneille, vous avez débarqué en force dans mon lecteur MP3 en 2002. À ce moment-là, j'ai 14 ans et vous chantez ça. Ouais, c'était le MP3, ça remonte un petit peu. Un énorme carton en France, mais aussi dans votre pays d'adoption, le Canada. Cette chanson qui avait été remise 10 ans plus tard à l'honneur par la 9e édition de la Star Academy. Quelqu'un dans l'équipe peut me citer un candidat de cette promo de la Starac?
Bien sûr.
Non, personne. Comme quoi on peut venir de loin et aller nulle part. Parce qu'on vient de loin, car je verrais bien rebaptiser pour le Parti Socialiste à l'approche des européennes sous le titre Parce qu'on revient de loin. C'est dingue en y regardant de plus près comment vos chansons peuvent coller à l'actu. Pour le président, par exemple, ça fait des semaines que vous pouvez lui chanter ça. Vos paroles ne marchent pas qu'avec les politiques. Par exemple, quand vous chantez « C'est avec classe que je te désire, mais dans le respect en tout cas, c'est avec classe et ça marche à chaque fois », et ben c'est le résumé de mes samedis soirs. Mais blague à part, Corneille, c'est aussi surtout une chanson qui fait forcément écho en 2019 avec les crises migratoires présentes et surtout celles à venir. Plus que jamais, aujourd'hui, des gens viennent de loin, comme vous, Corneille. Vous, c'était le Rwanda, survivant miraculeusement au génocide qui a frappé votre pays et toute votre famille, faisant de vous aujourd'hui un artiste aussi populaire qu'engagé. Engagé, oui, mais pas n'importe comment. Loin du sensationnalisme médiatique et de l'héritage colonialiste tenace, l'Afrique coule dans vos veines, déborde de votre œuvre pour parler d'un continent qui n'est pas que misère et problème. Et ça, vous y êtes attaché. C'est aussi l'espérance, la solidarité et le sens de la famille. Et sur ces sujets-là, c'est nous, occidentaux, qui venons de loin. Alors, pour la sortie de ce nouvel album qui parle d'amour, pour ne plus parler de la guerre, je conclurai avec cette
cette citation de Corneille, pas vous, hein, mais l'autre, qui a dit un jour « Le temps est un grand maître, il règle bien des choses ». Merci de m'avoir.
Bravo.
Mon plus grand défaut, c'est la paresse. Je peux rester des journées entières sans mon divan à mater des séries ou simplement à ne rien faire. J'ai souvent la flemme de bien m'habiller. Quand j'amène mes enfants à l'école, je suis presque en pyjama, je porte un jogging et il m'arrive d'enfiler des chaussettes trouées.
Ouais, ouais, ça m'arrive.
C'est vrai.
Ouais, ça m'arrive.
Non, mais donc vous lézardez à la maison à rien faire très souvent, à regarder des séries.
Je suis un grand flemmard, moi. Ah ouais, je suis un grand flemmard.
Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre femme ?
Bah alors, la vie a mal fait les choses pour moi parce que ni ma femme ni mes enfants sont des flemmards.
Ah, ces trois
personnes sont dans l'action tout le temps. Ils aiment faire, quoi. Moi, si je suis pas obligé, je...
Vous êtes un contemplatif.
Ah oui, mais vraiment, vraiment. Et j'imagine, en fait. J'imagine.
Vous rêvez sur votre canapé.
Je rêve. C'est peut-être pour ça que je fais de la chanson. Et c'est peut-être pour ça que je vais finir par écrire des bouquins. C'est que j'imagine des histoires. D'ailleurs, je mate des séries télé, mais je suis incapable de rester dans l'histoire que je regarde, par exemple. Moi, je me crée des personnages parallèles et je sors de l'histoire.
Par exemple, vous voyez des personnages parallèles ici, là.
Là, j'imagine une Anne Romanoff qui est un peu plus sympa avec moi en début d'émission. qui me dit autre chose. Alors, je me dis comment est-ce que l'émission conclurait s'il avait commencé autrement. Je sais pas. J'essaie de me dire. Non, mais c'est vrai. J'imagine plein et je suis un contemplatif. Ouais, je suis un contemplatif.
Je vous présente quelqu'un qui adore vous contempler. C'est Léa Landau.
Corneille, alors en 92, moi dans mes cours de théâtre, je faisais la connaissance de Corneille le dramaturge. En 2002, j'ai découvert Corneille le chanteur. Et donc très simplement, en 2018, comme l'occasion se présente, et je peux vous dire qu'en ce qui me concerne, les occasions ne se présentent pas souvent, je me suis dit que j'allais faire rencontrer les deux Corneilles. Je vous ai préparé une interview Corneille contre Corneille, alors l'auteur versus le chanteur. Je pars d'extrait du site pour vous poser des questions. Prêt, Corneille ?
Prêt.
Alors Corneille, l'auteur, a écrit « Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années ». Alors vous, Corneille, le chanteur, vous diriez que comme le bon vin, vous vous bonifiez avec le temps ?
Ça dépend, on demande à Anne ou pas ? on n'en sort pas, on n'en sort pas. Ça va être, je pense que oui, ouais.
Ouais.
Je pense que ouais. Je pense qu'on a tous... moi, je me sens moins con qu'il y a 15-20 ans. Je me sens donc forcément plus intéressant, plus... plus sûr de moi-même, j'ai plus de confiance en moi, je me trouve mieux.
Pour le début, alors Corneille, l'auteur, a écrit « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Et vous, Corneille, le chanteur, vous pensez que le courage de votre jeunesse vous a amené jusque-là ou vous avez eu du cul ?
Les deux.
Les deux ?
Ah oui, il faut un petit peu de chance quand même, ouais, pour y arriver. Ah ouais.
Alors Corneille, l'auteur, a écrit « Jamais nous ne goûterons de parfaite allégresse, nos plus heureux succès sont mêlés de tristesse ».
Il était dark, mon homonyme, quand même.
Ah, il était, ouais, carrément. Et Corneille, le chanteur, donc il est content de son succès et comme la plupart des artistes, toujours un peu mélancolique.
Toujours.
Toujours.
Ouais. La mélancolie, c'est aussi une source d'inspiration.
Ah ouais. Et enfin, alors Corneille, l'auteur, a écrit « Devine si tu peux et choisis si tu l'oses ». Bon, voilà, ça, c'est pour mon ex, c'est pas de question.
Devine si tu peux et quoi ?
Et choisis si tu l'oses.
Si tu l'oses. Et rappelle-moi,
et
c'est
rappelle-moi,
ça.
Et rappelle-moi, petit con. Mais je voudrais lui dire aussi à mon ex, comme toutes les femmes, nous sommes nos propres mères, si jeunes et si sérieuses, mais ça va changer.
Merci.
Corneille, il y a des scènes de prévues avec ce nouvel album ?
Oui, il y a des scènes, on va les annoncer si peu, avoir des dates au début du mois d'avril et puis une tournée à l'automne.
Qu'est-ce que vous conseilleriez aux gens qui vivent des drames ?
C'est toujours délicat, j'ai toujours du mal à donner des conseils parce que souvent, quand même moi, en tant qu'auditeur ou spectateur, quand je suis les médias, j'ai l'impression qu'il y a toujours quelqu'un qui se prend pour un expert ou un spécialiste qui va nous expliquer comment on va régler nos problèmes, alors que c'est du cas par cas. On n'a pas tous les mêmes vies, on est tous juste différents et les sommes de nos expériences très singulières. Mais moi, ce que j'ai appris, en tout cas, ce que je peux dire, c'est d'essayer d'être indulgent avec nous-mêmes. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'arrêter d'être dur avec moi-même et d'accepter mes fautes et mes failles. D'une part et de l'autre, de dire qu'on a mal. Je trouve qu'on est de plus en plus dans une société où...
De performance,
puis à la dictature du bonheur forcé, c'est-à-dire on est tous obligés de dire « Ouais, super, tout va bien, machin, Instagram, Facebook et tout, on poste des trucs qui ressemblent plus ou moins à notre vie réelle, et puis finalement, ça ne nous fait pas plus de bien. Au contraire, ça prend beaucoup de courage de dire que ça va mal. C'est très difficile. Mais c'est très, très guérisseur. Ça aide. De pouvoir le dire, finalement, on se rend compte, moi, toutes les fois que j'ai dit aux gens, à mon entourage, ou même des gens que je ne connaissais pas, putain, ça ne va pas bien. Ça va bien. Plus souvent, j'ai rencontré beaucoup d'empathie. Et souvent, on se garde de le dire parce qu'on a l'impression de justement de rencontrer du rejet, de se faire dire désolé, mais ça m'intéresse pas, tes problèmes, j'en ai aussi. Et plus souvent, j'ai retrouvé de l'empathie, ça a créé des conversations, des discussions où je me rendais compte que l'autre n'était pas mieux que moi en fait. Et on peut guérir ensemble, c'est quasi impossible de le faire tout seul.
Bravo.
Merci Corneille d'être passé nous voir.
Merci à vous.
Notre invitée est une actrice qui est belle, drôle, féminine. Elle porte des robes fourreaux, des talons de 12 cm, des décolletés plongeants. Et pourtant, elle est féministe. Elle s'explique dans son nouveau spectacle Féministe pour hommes, où elle parle des hommes, des femmes et des hommes aux femmes. Oui, elle est bilingue. J'accueille Noémie Delattre.
Merci, salut.
Bonjour Noémie Delattre.
Bonjour Anne Roumanoff.
Alors, vous êtes à la Pépinière Théâtre à Paris depuis le 3 février, les dimanches et lundis à 19h. Mm-hmm. Et donc, c'est un spectacle féministe. Racontez-nous.
Un spectacle féministe, ouais, ça c'est une grande aventure. En fait, je l'ai appelé féministe pour hommes avec une majuscule, donc en fait féministe pour tous, hein, puisque je vous rappelle, mesdames, que nous sommes des hommes.
Ouais. Et
oui, c'est ça qui est merveilleux.
Comment ça, on est des hommes ?
Eh oui.
Êtres
oui.
humains, l'homme en sens, au sens large.
Bah oui, mais c'est l'homme quand même homme. Hein, ouais,
voilà. Il a compris un truc. C'est fou, c'est la première fois que ça nous arrive, c'est vrai.
N'importe quoi.
Non, mais tu vois, il y a d'autres pays francophones, par exemple, où on dit les droits humains, c'est quand même plus sympa.
D'accord.
On dit les droits de l'homme. Donc un spectacle féministe pour hommes.
Féministe pour tous, effectivement, mais où je joue sur cette petite ambivalence, n'est-ce pas, du mot homme. Et l'idée, c'est de faire un spectacle populaire qui parle à tous les gens qui ne savent pas ce que c'est que le féministe, voire même sont contre le féministe.
Le quoi, vous voulez dire
voilà.
Le féminisme. Voilà. Vous dites que ce spectacle suscite des fortes réactions, les gens continuent à en parler dans la rue, vous êtes...
Je reçois beaucoup d'amour, à dire vrai. Les gens restent... quand j'ai joué à Avignon cet été, quasiment tous les soirs, il y avait au moins 3-4 personnes qui me demandaient des câlins.
Ah ouais.
Je me suis un peu prise pour Ama.
C'est vrai. Ouais.
Non, mais c'était génial. En plus, j'ai eu un mois très dur parce que j'ai eu beaucoup de deuil à ce moment-là. Donc, en fait, c'était des câlins qui me faisaient à moi aussi très plaisir.
On va aller à la fin de ces spectacles, Anne. Qu'est-ce que t'en penses ?
Non, mais c'est vrai, je te jure, les gens me font des câlins. J'ai des déclarations d'amour, mais c'est pas du tout. Ça me fait pas un plaisir vaniteux parce que je sens bien que c'est pas moi qui suis concernée.
C'est le message véhiculé dans le spectacle. Exactement. Et vous dites que vous aimeriez que ce spectacle soit traduit dans le monde entier, Noémie Delattre ?
Ah, vraiment, ouais. Et encore une fois, c'est pas un truc de je me la pète et tout. Quand je vois l'effet que ça fait aux spectateurs et aux spectatrices, je me dis que j'adorerais que ce message soit. Mondial quoi.
Noémie Delattre, vous avez une technique pour savoir si un propos est sexiste ou pas ?
Ah oui, j'ai une technique géniale. Vous remplacez femme par noir.
C'est-à-dire ?
Alors, exemple, les femmes ne savent pas conduire. Ouais. Qui n'a pas déjà dit ça ?
Ouais.
Les noirs ne savent pas conduire.
Ça, c'est vrai, ça.
Ah, ça pique.
Non, mais alors là.
Et les barbus. C'est vrai, ça en plus. Ou alors, les femmes sont moins fortes en maths que les hommes. Tout le monde le sait.
Ouais.
Les noirs sont moins forts en maths que les blancs. Ça dérange un peu, hein.
Ah ouais.
Ah non mais ouais. Et puis la journée de la femme, la journée du noir. Sérieux, la journée du noir. Vous imaginez si on disait ça, mais on serait jeté des objets, quoi. Et tant mieux. Et en plus, ce qui est super, c'est que ça marche avec toutes les généralités, même positives. C'est-à-dire que s'il est raciste de dire les noirs ont le sens du rythme, eh ben il est sexiste de dire les femmes ont le sens de l'organisation. Attends, je vous en donne un à vous. Allez-y, faites-le. Les femmes sont naturellement plus à l'aise avec le travail domestique.
Les noirs sont naturellement plus à l'aise avec
le
travail domestique.
Ah, tu l'as
dit, t'as
osé le dire. Tu vois, ça accroche. Hein.
Ouais.
Alors qu'avec femmes, ça gêne pas.
Donc quand ça gêne avec noir, c'est qu'en fait, c'est pas sexiste bon avec femmes.
Exactement.
Ça marche avec chinois aussi ou...
Essaye, vas-y.
Et le sexisme dans notre langue, Noémie Delattre ?
Ah ben, je parlais tout à l'heure des droits de l'homme en arrivant, mais notre pays, quand même, c'est liberté, égalité, fraternité. Hein.
Ouais.
Bah, salut les gars. Enfin, à quel moment ça dérange de mettre liberté, égalité, solidarité ? C'est quand même fou.
Ouais.
Tu sais que le mot vainqueur n'a pas de féminin ? Plombier non plus, mais c'est vrai que...
Bon. Alors vous dites que vous n'êtes pas d'homme, Noémie Delattre, mais quand même, votre père vous voit.
Ah ouais, c'est vrai.
Ah ouais,
c'est vrai. Comment vous savez ça ? C'est marrant, ça.
Oui.
Non, mais en plus, ce qui est fou, c'est qu'il tutoyait mes copines. Donc,
Ben
oui. Et puis, vous voyez, enfin.
C'est ça qui vous a rendu un peu folle, en fait.
Non, alors c'est pas ça, c'est la première phrase qu'il m'a dit qui m'a rendu folle, c'est-à-dire qu'il m'a dit: Oh mon Dieu, que vous êtes moche. C'est la première chose qu'il m'a dit.
C'était à la naissance.
Quand vous êtes né, vous avez dit ça.
Oui.
Mais c'est pas gentil.
Bah non, c'est pas gentil. Ça m'a valu 15 ans de psychothérapie. Non.
C'est en plus, vous êtes très jolie. Mais comment vous en rappelez qui vous a dit ça?
Non, parce qu'on me l'a raconté. Et on m'a aussi raconté la première phrase de ma mère. Alors ça, c'est encore pire. Donc ma mère attendait un garçon. Et donc l'infirmière est arrivée, oh madame, c'est une fille, c'est merveilleux. Et ma mère, qui donc attendait un garçon, fait, oh la salope.
Non, non.
Premier mot de ma mère,
c'est
la salope.
C'est pour ça que vous êtes
mot de mon père.
Mais c'est pour ça que vous êtes féministe.
Bah évidemment.
Bah ouais.
Évidemment.
Je suis trop forte pour déceler les failles des gens.
Et
du coup, évidemment, ça a dû créer des problèmes avec les hommes, ça, tout ça, non?
Oh là là, si vous saviez, des problèmes avec moi, des problèmes avec les hommes, des problèmes avec plein de choses.
Et maintenant, ça va, vous êtes épanouie.
Oui, mais vraiment, c'est du boulot. Hein.
Non, mais vous avez un côté femme fatale, Noémie Delatte. Vous avez eu des histoires passionnelles un peu, non?
Oui, mais en fait, non, vraiment. Oui, mais j'ai toujours été... Non, je suis un vilain petit canard, moi. J'ai jamais... on m'a jamais demandé en mariage, on m'a jamais... j'ai toujours attiré les hommes sexuellement.
Vous dites, on vous a jamais demandé en mariage, on vous a fait un enfant, là, maintenant. Donc...
J'ai fait un enfant avec quelqu'un.
Oui, vous avez un enfant.
C'est un partage. Tout à fait.
Avec un homme.
Avec un homme, tout à fait.
Vous vivez avec cet homme.
En fait, je me rends compte que c'est très compliqué avec les questions que je me pose au quotidien sur les relations entre les hommes et les femmes, sur le féminisme, etc., sur ce que je défends sur scène tous les soirs, dans mes vidéos aussi, sur les réseaux sociaux, etc. Donc toutes ces réflexions que je mène, ça devient de plus en plus compliqué pour moi, effectivement, d'être dans une relation amoureuse hétérosexuelle. Franchement, c'est compliqué. Et effectivement, on se pose beaucoup de questions avec le père de mon fils en ce moment. Et je pense que les questions qu'on se pose, en fait, elles sont un peu liées à qui il est lui et qui je suis moi et nos histoires de couple. Mais je pense qu'elles sont énormément liées au fait qu'on est un homme et une femme éduqués comme des hommes et des femmes dans ce monde-ci. Et que ça devient très compliqué, je trouve,
d'être une femme libre. Fusion, ouais. C'est ça ?
Oui, parce que pour les hommes, c'est très compliqué aussi. Enfin, je veux dire, depuis quelque temps, les femmes, et c'est merveilleux, évoluent énormément et réclament beaucoup de choses.
Mais ils ont du mal à trouver leur place.
C'est très compliqué. Je pense que les rapports entre les hommes et les femmes sont très, très compliqués. Ouais. Moi, je pense que l'homme parfait est trois. Je pense qu'il faut que je fasse des enfants avec un homme.
Je comprends plus rien, moi, depuis 5 minutes. Par
contre, non, mais ça m'intéresse.
Le modèle familial, là.
Faut faire des enfants avec un homme.
Et j'en épouse un troisième.
Ah oui, et vous couchez avec un deuxième et vous couchez avec un troisième.
Ah oui, après, ceux à qui je couche, c'est multipliable à l'infini. Un enfant qui est élevé par deux parents qui s'aiment a toutes les chances de se voir dénigré au profit de l'amour de ses parents.
Ah oui. Je vais devoir faire une chronique après ça.
Non, mais tu vois, alors que... je pense que tu peux pas élever mieux un enfant que si tu te réunis avec quelqu'un que dans le but de l'élever.
Ben, d'accord.
Ah,
après,
oui.
Vous allez fricoter avec...
Donc, du coup, je fais un enfant avec un copain gay. Comme ça, on est là que pour l'enfant. L'enfant, il a deux parents qui sont là que pour lui. C'est super. C'est vraiment... C'est tac, la famille.
Ouais. Leur amour à eux n'entre pas
en ligne de compte dans
relation.
L'éducation, etc. Ouais. Et puis aussi, les couches-culottes n'entrent pas entre deux parties de jambes en l'air. Donc, tout le monde est tranquille.
Okay.
Ensuite, il y a un autre mec... avec qui je signe un contrat qu'on appelle un mariage, et c'est ok, on sera ensemble pour la vie, t'inquiète pas, on vieillira pas seul, on sera là l'un pour l'autre, on est complices, on se marre, on peut coucher ensemble à l'occasion, on va pas s'embêter, mais en tout cas, c'est une relation de fidélité, de confiance et de complicité.
Et après, un troisième homme
avec qui je couche.
Ah, je pense à votre mère qui disait oh la salope,
du coup, la relation de
bien sûr. Bien sûr, elle avait tout compris.
Elle avait vu ça dès le début. Elle vous a vu arriver à la sacrée coquille. Hein.
Laurent Barra a préparé une chronique pour vous, Noémie Delatte.
Je suis hyper touchée.
Oui, je suis accusée de machisme dans cette émission. Alors, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs du jury, Madame la Procureure de la République, Noémie Delatte, que me reproche-t-on exactement d'avoir à tout juste 40 ans une vie sentimentale en dehors du modèle traditionnel imposé par la société sans femme, sans enfants et leur kermesse de fin d'année interminable où ton gosse n'intervient qu'au bout d'1h25 de spectacle, déguisé en fleurs. Je suis un coquelicot. 2 heures. De ne pas avoir tous les matins la même partenaire de réveil et d'être parfois surpris, voire terrifié par la présence de l'une d'entre elles, totalement dépourvue de maquillage et ébouriffée. Que me reproche-t-on d'avoir fait une crise de spasmophilie en apprenant que le commandant de bord de mon vol EasyJet Nice-Paris était en fait une commandante? C'est ça qu'on me reproche? Eh bien, effectivement, Madame la Présidente, si c'est ça être macho, alors je plaide coupable. Mais je me soigne. Et d'être présent aujourd'hui aux côtés de Noémie Delatte, dont le spectacle féministe pour les hommes réussit la prouesse unique de ne pas nous exclure. Eh oui, de ne pas nous exclure, nous les mâles soi-disant dominants. Et c'est déjà le début d'une belle thérapie. Parce que oui, Madame la Présidente, je me soigne. J'ai appris à écouter les femmes. Mes histoires précédentes se sont toutes terminées parce que soi-disant, je ne prenais pas assez d'initiatives. Ça, les femmes n'aiment pas ça. Et depuis, je me suis transformé en véritable syndicat
d'initiative. J'ai toujours une idée. J'ai toujours une idée en couple. C'est chiant, salsa, bachata, deltaplane. Avec moi, place pour l'ennui. Mais bon, faut trouver un juste milieu. Faut que j'arrive à trouver ce juste milieu et je n'y arrive pas. C'est pas facile. Avec d'un côté des hommes à qui, comme vous le dites si bien dans votre spectacle, on a enseigné à l'école que le masculin l'emporte toujours sur le féminin. C'est dingue ça. Et de l'autre côté, des femmes qui, enfants, croyaient qu'un prince charmant viendrait les réveiller d'un baiser magique. Elles qui réaliseront bien plus tard que les princes ne sont pas si charmants que ça, hein, et que leurs baisers matinaux ont terriblement mauvaise haleine. Je conseille ce spectacle à tous les machos. Quant à moi, Madame la Présidente, je réclame la clémence de la Cour, car je serai au premier rang pour la prochaine représentation. Vous voyez, je suis macho, mais je me soigne. Bravo.
Notre invité qui est comédien, réalisateur, auteur, animateur radio, il est aussi connu pour son sens de l'humour que pour son sens de l'impro. Que ce soit dans Cravate Club, le centre de visionnage ou Astérix, ce maître du bon mot est à la fois lunaire et solaire. On l'a vu dans plus d'une cinquantaine de films et il n'est jamais très loin d'une scène de théâtre. La preuve, aujourd'hui, il va nous parler de son nouveau spectacle Seul en scène, les élucubrations d'un homme soudain touché par la grâce au théâtre Antoine. L'inclassable Édouard Baird est avec nous ce matin sur Europe 1. Bonjour Édouard Baird.
Bonjour Andrew Manoff.
Édouard Baird, le titre de votre spectacle, ça ressemble. Moi, mon spectacle a failli s'appeler Les élucubrations d'une femme soudain frappée par la graisse.
Oh. Bon, on m'a dit que c'était pas vendeur et que ça rentrera jamais sur l'affiche s'il y avait déjà ma photo.
Oui, ben moi je me sers plus gentil. Je suis plus gentil avec moi que vous avec vous, alors sans doute. Oui, ça se la raconte. Non, mais c'est un titre, d'ailleurs, j'en parle dans le spectacle. Je sais pas ce qui m'a pris, en fait. Les élucubrations, c'est une façon de c'est pas les divagations, c'est une façon de parler un peu comme quelqu'un qui croit être inspiré, tout à coup qu'il y a un flux de mots qui
lui
arrive.
Alors c'est comme un happening ce spectacle parce que vous arrivez sur scène et vous dites que vous jouez dans.
Oula, ne
vous dites pas. Faut pas le dire.
Non, mais... oui, parce que c'est en direct en fait, ça se passe vraiment là et les spectateurs sont amenés dans la fiction. C'est donc j'arrive.
Il y a même un moment vous demandez aux gens de vous cacher.
Oui, mais je viens me réfugier dans le théâtre. C'est quelqu'un qui vient se cacher, qui s'est enfui et qui et quand on s'enfuit, plus les minutes passent, plus c'est emmerdant, plus c'est compliqué de revenir dans sa vie d'avant. C'est un type qui est en fugue, comme quand on dit je vais sortir le chien à sa femme, et puis deux mois après, dis donc, le chien, il était... Oui,
ça vous est déjà arrivé, ça, Édouard Baird, de partir sortir le chien, vous n'avez pas de chien?
Non, mais on peut sortir l'équivalent d'un chien. Enfin, l'absence de chien, on peut sortir rien. Mais enfin, en tout cas, la tentation de fuguer, de disparaître de chez soi et de sa vie, je pense que ça nous arrive tous, même quelques secondes, même dans des moments où on croit être très heureux ou très amoureux, on peut avoir dans notre cerveau, mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que c'est ma vie?
Se laisser aller à la lâcheté, en fait.
Alors, la lâcheté ou le courage de
moi, j'ai jamais envie de disparaître de ma vie, moi. Vous êtes un peu spécial.
Mais si je vous ai vu là, pendant une seconde, vous m'avez regardé, qu'est-ce que je m'emmerde à cette émission avec cet invité-là, vous avez... Non, mais pendant deux secondes...
C'est parce que j'ai faim, en fait.
La vérité. Un petit quart de seconde, vous dites, est-ce que c'est vraiment... Est-ce que je suis dans ma vie ou pas? Est-ce que c'est ça,
ma
vie?
Ah non, mais moi, j'ai pas ça, non.
Vous avez de la chance.
Alors, vous caressez un rêve, d'ailleurs.
Ah non, mais c'est un titre absurde. J'avais lu ça. J'ai fait une interview dans Le Figaro et l'article s'intitulait « Je caresse un rêve, d'ailleurs ». J'ai vraiment dit cette phrase-là, grotesque. On imagine un type qui caresse des rêves.
Il paraît que vous rêvez d'aller créer un centre créatif à Montréal ou en Afrique.
Ah, parce que j'adore les villes francophones et puis ça m'amusait.
À Dakar ou à Montréal, oui. Vous voudriez partir, inviter des gens dans un endroit.
Je voudrais faire comme un grand endroit. On ferait à la fois du théâtre, des émissions de radio, on pourrait faire des plateaux de cinéma. En France, les locaux sont trop chers, c'est très compliqué, les autorisations et tout ça. Tandis qu'il y a des villes où je me dis que c'est possible.
Vous êtes un peu un utopiste, Édouard Baird.
Bah oui, j'essaye un petit peu quand même, parce que sinon, moi je rentre me coucher. Moi, je suis beaucoup plus dépressif que vous si je me bats pas.
Vous êtes dépressif. Vous n'avez pas l'air de répondre.
Non, mais je lutte contre, donc je fais des choses pour lutter parce que je n'aime pas le
calme.
Le calme m'inquiète.
Vous ennuyez, vous avez peur de vous ennuyer?
Non, de trop penser.
Non, de m'effondrer. Ah, non, ennuyer, c'est rien.
Vous pleurez?
Je pleure. Un homme qui pleure. C'est quoi la chanson de Jenny, très belle? Un homme qui pleure. Non, ça vous dit rien du tout?
Non.
Le temps que ça me revienne, l'émission sera terminée. J'ai peur.
Mais vous pleurez souvent, Édouard Baird?
Non, je pleure au cinéma très facilement.
Ah oui?
Ah oui.
Sur mesure, là, je vous dis pleurer.
Non, au cinéma.
Quand vous êtes
Faites-moi
spectateur.
Une image. Ah oui, comme spectateur de cinéma. Un spectateur,
pardon. Une maman
pardon.
Qui meurt, vous
ah,
pleurez.
Même avant qu'elle meure. Si elle commence à avoir un peu de fièvre, je m'inquiète. À partir de 37,4, à 37,4, je m'inquiète.
Alors, j'ai trouvé pour Serge Reggiani, si vous voulez savoir. Il faudrait bien qu'on me raconte pourquoi il faut toujours tricher, que l'on m'explique où est la honte pour un homme de pleurer.
Il faudrait bien qu'on me raconte pourquoi il faut toujours tricher et où est la honte pour un homme de pleurer. pour un homme de pleurer. Ça me bouleversait, ouais. Ça. Mmh. La voix de Reggiani, quand il prenait une chanson, il n'en a écrit aucune. Et à chaque fois, c'était comme, je crois, quand on confie une chanson à Johnny. Il l'a réinventée, il a repris des chansons de Moustaki, qui est chantée par Moustaki, sont pas mal, et tout à coup chantée par lui, Madame, votre fille a 20 ans, elle est extraordinaire. Mmh. Madame, le printemps, vous oubliez, dit par Reggiani, c'est extraordinaire.
Alors, vous imitez aussi, avant Jean-Pierre Marielle sur scène, vous rendiez un petit hommage. Comment vous allez continuer à faire ça maintenant qu'il
Non. Pas ces jours-ci, parce que c'était pas lié à l'actualité. À un moment, je rends hommage aux grandes voix, moi, aux gens que j'admire et que j'admirais. Ces acteurs-là, Jean Rochefort, Philippe Noiret,
Jean-Pierre Marielle. Vous avez une vénération pour Jean Rochefort ?
Oui. Il y a aussi Pierre Brasseur de la génération encore avant, qui sont des personnages incroyables pour moi. Et puis celui qui est vivant, Jean-Louis Trintignant, à un moment, on entend sa voix dans le spectacle. Mais c'est pas juste des voix comme techniques, quoi. C'est des âmes qui s'expriment par leur voix. C'est pour ça que c'est des gens bouleversants. Et puis voilà, de transmettre les gens qu'on a admirés, c'est un peu ça, on sert à ça aussi, quoi, de faire partager ce qu'on a admiré. On ne peut pas faire partager que nos dégoûts, nos colères dans la vie, c'est pas mal faire partager ces admirations.
Vous avez une admiration pour ces comédiens-là qui étaient sans limite aussi, quelque part.
Mais
il y avait une folie.
Mais oui, des folies dans la vie, c'est des gens aussi, parce qu'on sentait une liberté quand même, c'était extraordinaire d'être Jean-Pierre Marielle. On voyait, c'est des gens qui se baladaient dans la vie avec extraordinairement de liberté. Ça, c'est très rare dans nos métiers.
Vous êtes libre, Édouard Baer, vous.
Ben, on essaye, puis parfois on se laisse un peu. Hélas, on est moins qu'on le voudrait, quoi. On fait des petits compromis, on dit ah bon, ça fait plaisir, il faut peut-être faire ça. Mais être libre, ça veut dire ne pas seulement se foutre des insultes, mais aussi des compliments d'une certaine façon. Il faut avoir, c'est pas de l'arrogance, c'est pas avoir trop confiance en soi, mais c'est d'aimer son art. Et Jean-Pierre Marielle, on voit comme il se moquait des honneurs et de tout ça. Enfin, c'était un personnage exceptionnel. Il a écrit un très joli livre de souvenirs qui s'appelle Le Grand N'importe quoi, où c'est merveilleux. Il raconte, il avait commencé avec des acteurs qu'il admirait énormément, Delphine Seyrig, et des gens comme ça. Il dit, je sentais que chez eux, on pouvait faire de l'humour, mais en mettant des patins. C'était tellement il y avait un esprit de sérieux, formidable.
Vous êtes seul sur scène, mais vous avez un comparse.
Oui, oui, c'est un faux seul sur scène. Il va être oui, mais parce qu'au début, je ne savais pas. Quand on a commencé à répéter, j'ai demandé à un copain, un acteur génial qui s'appelle Christophe Méné, est-ce que tu peux venir aux répétitions ? Je ne sais pas s'il y a un rôle. Et puis on s'est aperçu qu'il y a un rôle, il y a un rôle formidable, et donc on est deux. Mais il ne peut pas continuer, donc il faut que je trouve.
C'est vrai.
Et puis j'ai un autre copain qui s'appelle Patrick Bossard qui fait un petit clin d'œil à un moment aussi. Non, mais c'est plus joyeux quand même. Mais je ne l'ai plus pendant la fin du spectacle. Donc vous dites
c'est en alternance, mais vous ne savez pas quel est l'autre.
Voilà. Donc quand on a fait l'affiche, je ne savais pas. Donc il y a un truc bizarre sur l'affiche. Mais Christophe Méné ou en alternance, 3 points de suspension.
je crois que justement que c'est parce qu'il y allait avoir des guests qui allaient venir, des gros guests. Je pensais que c'était plus ça.
Vous voulez du people. Bon, il y a Nabila. Non, mais Non, c'est parce qu'on ne savait pas que quand j'ai lancé le spectacle, oui, c'était trop tard.
Au début du spectacle, vous interprétez un comédien qui s'est échappé du théâtre d'à côté. Comment vous est venue cette idée ? C'est un fantasme ? Vous avez déjà voulu faire ça ? Ou vous n'allez pas, par exemple, vous échapper de cette émission pour aller vous réfugier sur RFM ? Ou est-ce que vous êtes déjà échappé d'un projet foireux, Edouard
Oui, mais c'est une chose merveilleuse dans la vie quand les gens vous disent là, tu ne peux pas partir ou là, on ne peut pas. Vous avez la preuve que si, je suis en train de le faire. Et c'est une chose de fuguer. Moi, il m'est arrivé de faire l'école buissonnière comme ça, un rendez-vous important. Puis c'est vraiment odieux ce qui se passe, soit une émission ou dans la vie, ou des gens qu'on doit vous présenter. Et tout à coup, c'est évident qu'on ne peut pas partir. Bah, la preuve qu'aussi, on est en train de le faire. Et là, on se sent tellement libre. Et on marche dans la rue. On se dit, c'est extraordinaire, ma vie commence là. Voilà.
Et puis vous perdez un contrat. Et
oui. Ah ben oui, il faut que ça
et
soit
puis
pas
ça. Et puis votre banquier vous téléphone.
Oui. Ça, c'est bien sûr. Non, mais on sait qu'on va payer le prix. Hein. C'est pas un truc. C'est face à des gens puissants ou à des gens intimidants qu'on fait ça. C'est pas face à des gens plus faibles que vous. Non, c'est ce qui est excitant, c'est ça. C'est de reprendre sa liberté.
Vous avez déjà dit merde à des gens importants, Edouard Baer ?
C'est-à-dire, moi, ça m'intimide tellement les gens importants que je bois. Et alors, je deviens
vous
trop.
Buvez avant
oui,
d'y aller.
De peur d'être trop aimable. Alors, je bois, je deviens trop désagréable. Enfin, je suis pas à l'aise avec les gens de pouvoir.
Là, vous avez bu avant de me rencontrer ?
Non, parce que vous êtes importante au sens... Vous êtes essentielle, mais vous n'êtes pas importante.
Ah, c'est génial !
Comment ? Ce qui veut dire, c'est qu'on a besoin de vous pour l'émission, mais que vous ne comptez pas du tout.
Voilà. Non, mais vous n'êtes pas... Vous ne représentez pas le pouvoir. Vous m'invitez, c'est très gentil.
Oui, c'est vrai.
Personne ne m'a forcé. Oui, je ne me dis pas, si je ne fais pas l'émission d'Anne Romanoff, le spectacle s'effondre. Donc c'est un plaisir d'être là. C'est un choix personnel. Il n'y a pas 12 attachés de presse qui m'ont dit va chez Anne Romanoff, on va faire monter tes chiffres. Même si vous voulez aller voir le spectacle, chers auditeurs, quand même. Il me reste 3 places le 8 mai.
Vous allez être maître de cérémonie au Festival de Cannes.
Quelle carrière ! Oh là, l'ami !
On vous demande souvent d'être maître de cérémonie, Edouard Baer. Vous avez fait le César, les festivals. Hein,
j'ai commencé à la semaine du saucisson, je mets la saucisse à m'embellir.
Comment non, ça mais... se fait qu'on vous demande ? Parce que vous avez un côté un peu chic, dandy.
Voilà, je porte bien l'habit, vous savez, on porte bien l'habit.
Vous êtes élégant ?
Voilà, donc voilà, on me met là. Non, je sais pas. Bah écoutez, moi, c'est quand on me demande pas que je me pose des questions. Quand on vous demande,
ça, c'est stressant quand même parce qu'il y a tout le cinéma. Alors, le cinéma mondial quand vous êtes au Festival de Cannes.
Oui, oui, c'est stressant, mais c'est ça qui est excitant. Je pense que vous aussi, on aime faire ces métiers quand on se fait un petit peu peur, quand on se dit comment je vais faire, qu'est-ce
que
je vais
faire. Mais là, vous écrivez, vous cherchez des idées. Ouais. Là, vous
là, je cherche, là, je cherche.
Vous avez trouvé quelque chose?
Non, quelqu'un.
On va brainstormer.
Non, mais c'est pas les moments où on laisse de la place à l'imprévu, non?
Un petit peu quand même.
Un peu quand même.
Si, parce que même si vous avez tout prévu, il y a un truc. Moi, l'année dernière, je l'avais présenté, puis j'avais pas prévu qu'en fait, ils avaient pas dit au photographe de s'asseoir. Et à Cannes, il y a 200 photographes devant la scène. Donc déjà, vous jouez pour le théâtre, parce qu'il y a 3-4 000 personnes, donc vous jouez pour la salle et pour la télévision aussi, donc déjà, inconsciemment, vous oubliez qu'il y a 200 photographes qui cliquent pendant que vous faites votre truc, et là, dit merde, et donc tout s'effondre un peu, donc un peu, j'avais oublié mon texte à cause de ça. Non, non, mais après, il faut se rappeler ce qu'on veut dire.
Vous avez oublié
votre
texte l'année dernière, on vous a redemandé cette année?
Oui.
Et puis ils ont trouvé personne ou quoi?
Oui. Pourquoi vous avez choisi? Les autres ont dit non. Non, mais là, c'est. Alors après, on a un peu peur dans, vous savez, dans ces trucs-là, quand vous ne faites pas des trucs humoristiques, vous faites des trucs trop pompeux, genre sur l'écran noir de nos nuits blanches, Cannes, magie, cinéma, la vie, l'amour, la mort, en 24 images, secondes, vous avez l'impression d'être grotesque, donc il faut trouver quelque chose. Bon, ben,
mais c'est des gens très durs à faire rire, ces gens-là, c'est les pires du monde.
Alors c'est pour ça que j'ai renoncé à faire rire dans ce truc-là. Je me dis que c'est trop. J'essaye d'écrire un truc un peu qui m'émeut, enfin qui me touche, et puis après, si tout à coup c'est détendu, on fait rire pendant, quoi. Voilà.
Et dans votre spectacle, par contre, on rit beaucoup, Édouard Baer.
Ben, je vous remercie. J'espère pas contre. Enfin, on se moque.
C'est pas de la moquerie,
on
non.
On se moque pas. Les gens rient sauf quand il veut faire rire.
Édouard Baer, vous racontez au sujet de l'école. J'étais très bon dans le primaire, dans l'école communale de quartier, et puis après, quand il a fallu faire des devoirs à la maison, ça a été une succession de catastrophes.
Ben, c'est vrai, oui.
Pourquoi ?
Ben, à cause de ça, moi j'étais une petite vedette de l'école de quartier, où on se connaît, vous savez, tout le monde se connaît, là, jusqu'à la CM2, la 7e, et puis voilà, il n'y a pas à faire des devoirs à la maison, alors tout est sur place, et puis il y avait des personnages, ils disaient qu'ils allaient prendre du thé rouge à l'heure du goûter, ils allaient boire un coup de rouge, le prof de gym, et bon. Et puis après, vous arrivez dans un énorme machin, quand j'étais enfant, j'adorais les bouquins de Marcel Pagnol, il racontait ça très bien, c'est que le primaire, c'est vraiment intime, tout le monde se connaît, et puis on arrive tout à coup, les gens connaissent les gens par leur prénom, dans le primaire, tout le monde se connaît, et puis après, c'est une énorme usine, un peu.
Vous êtes très sensible aux relations humaines, Édouard Baer.
Ah ben oui, on fait tout pour quelqu'un, je trouve, on fait tout.
Alors à 18 ans, vous avez été au cours Florent pour suivre une jeune fille, et là, vous tombez dans le cours d'Isabelle Nanty, et Isabelle Nanty vous dit, si tu restais un peu... Et vous dites, ça fait 30 ans que je suis restée.
Ben oui, oui, je crois que c'est... Alors, je l'ai redit parce que là, elle m'a énormément aidé dans le spectacle, Isabelle. Et je lui dis, au fond, c'est grâce à toi que je fais ce métier. Je dis, oh ben merde, elle me dit. si j'avais su.
Il y a Ben H qui a été voir le spectacle hier.
Yes, yes, oui, 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 cher Édouard Baer, on me demande souvent si chroniqueur, c'est une bonne situation. Eh bien, c'est pas vous, je l'espère, qui allez me contredire, mais vous savez, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Je crois qu'il y a simplement des moments ponctuels, éphémères, fugaces, ces moments qui nous traversent, qui nous échappent pour toujours, ces moments qui, eux, peuvent être bons ou mauvais. Ce qui entraîne une question subsidiaire, est-ce que chroniquer Édouard Baer, c'est une bonne situation? Là, je répondrais que non. Non pas que le génie de notre invité ne me mettent pas dans un état d'admiration contemplative totalement béat. Non pas que je sois ravi de vous rencontrer ce midi, hein. Moi, des grandes années canales, je retiens que deux personnes, vous et Clara Morgan, mais je reconnais, non sans une certaine aigreur, que je suis, comme bon nombre de clowns de ma génération, jaloux de notre invité. Hein, là où moi, il me faut 2 heures pour écrire un truc bien, Édouard Baer, il lui faut 2 secondes pour dire un truc mieux. Du coup, je me retrouve comme face à une femme trop bien pour moi. Je suis super excité, mais j'ai la plume un peu molle. Faut dire aussi que hier soir, au Théâtre Antoine, devant les élucubrations d'un homme soudain frappé par la grâce, vous avez encore un peu plus exacerbé mon complexe. Hein. Nous autres troubadours, toujours en quête d'originalité, vous avez frappé super fort. Hein. Votre spectacle réalise par exemple le premier exploit d'être un pur seul en scène mais qui se joue à deux. De toute façon, prenez tous les codes du seul en scène et du théâtre plus généralement, hein. Mettez-les dans un shaker, ajoutez-y des références à quelques monstres sacrés de la discipline, secouez bien le tout et vous aurez le spectacle d'Édouard Baer. Une alternance d'hommages poétiques, de monologues que seul votre célèbre verve peut exécuter, le tout dans une mise en scène aussi rythmée que surprenante. Et voilà, je vous avais prévenu, nuge et la plus molle, j'écris comme un critique Télérama. Faut dire que la pièce avait tout pour me plaire. La lâcheté et la fuite sont deux grands thèmes du spectacle. Il y avait des chances que je m'y retrouve. Ma copine qui m'accompagnait s'y retrouvait visiblement aussi. À la fin, on a débriefé à la sortie du théâtre, comme font tous les couples normaux. Hein. Je lui parlais de la mise en scène, elle me répondait. Et puis il y a Édouard Baird, quoi. Je lui parlais des scènes qui m'ont fait hurler de rire, elle me répondait. Et puis il y a Édouard Baird, quoi. Je lui parlais de l'ambiance sonore, très réussie aussi, elle me répondait. Et puis il y a Édouard Baird, quoi. J'ai pas tout de suite compris ce qui lui avait plu dans le spectacle d'Édouard Baird. Et plus tard, en rentrant, on a fait l'amour. Et c'est quand elle a fini par crier « Oh, Édouard !» que j'ai finalement compris. Mais je ne lui en veux pas. Je lui en veux pas et je peux même la comprendre. Votre spectacle est vraiment réussi. Et pour une fois qu'elle crie. Alors merci, Édouard Baird.
Ça vous va droit au cœur, ce compliment, Édouard Baird.
Mais oui, parce qu'en plus, ils m'ont invité, donc j'étais là, donc c'est vrai.
Ils vous ont invité.
C'était très à la sympa. Maison. C'est des gens très accueillants.
Il est très proche de son public, Édouard.
Ce mec, en fait, c'est du Viagra pour filles.
Vous plaisez beaucoup aux femmes, Édouard Baird ?
Bien sûr.
Ah oui, oh, écoutez, alors jamais assez, parce qu'on se trouve. Non, c'est... Ben, qu'est-ce que vous voulez que je dise à ça?
Vous
dire
oui
pas,
ou non.
Vous savez, les hommes qui disent j'aime les femmes, c'est, on dit, c'est ceux qui n'en aiment aucune qui disent ça. Non, mais je sais, écoutez, je plais aux femmes, je n'ai pas du tout d'être esprit très parti là-dessus. On aime plaire, mais il faut, on aime plaire aux hommes.
Non, c'est
aux chiens. Quand on fait ces métiers, on est un peu, évidemment, peut-être en trop de séduction. On voudrait que les chiens aboient sur votre passage, que les chats miaulent, que les tables tapent du pied.
Il y a une certaine aura autour, parce que par exemple, bon là, ça se voit pas, j'ai une casquette, mais capillairement, on est un peu semblables. Oui. Chez moi, c'est juste décoiffé, chez vous, c'est dandy.
Enfin, non, vous voyez, c'est oui, mais on veut être Jésus-Christ, sinon on fait pas ce métier. Enfin, vous voulez, on a envie de marcher sur l'eau. Enfin, c'est,
vous avez toujours ce côté chic aussi, Édouard Baird.
Je suis extrêmement chic, sauf dans le privé. J'ai des crises de Depardieuisation à la maison avec un chambonneau.
Des crises de Depardieuisation, c'est oui. Quoi, Édouard Baird?
Se Depardieuiser, c'est tout à coup d'être plus cru dans la vie, courir après des jambons, enfin des trucs comme ça.
Ça vous arrive?
Oui, je sais pas ce que je voulais dire. Par
on le saura dans quelques instants. Ne bougez pas. Alors, vous aimez beaucoup les frites, Édouard Baird?
C'est alors, une question de fond.
Oui, vous pouvez dire, Anne, dites, à ce sujet, vous aimez beaucoup. Ah
ben Anne, c'est la métaphysique et la bouffe.
Vous dites les frites.
Du côté de Pardieu aussi.
Voilà, vous dites ça. Les frites, oui, mais alors les frites très très fines, très craquantes, pas les gros rectangles. Dans ouais. Le cornet de frites, il y a souvent du trop large. J'aime bien que ce soit à la limite du brûlé.
C'est mon combat. Je suis un militaire. Alors il y a plein d'écoles sur les frites. Hein. Il y a beaucoup de désaccords. Ça me peut mettre des gens en colère. Peut-être qu'ici l'émission est en public. Je sens une vraie colère qui gronde. Quoi. Là, je sens monter la colère. Hein. C'est mon côté élu macronien, le mec qui est dans son bureau tranquille, qui sent monter des choses. Alors, non mais les frites. Oui, j'aime quand ça craque. Vous savez, il y a des frites où dedans il y a la patate. On oublie une fois que vous avez enlevé la peau, c'est plus de la frite dedans. C'est presque de la pomme de terre au four dedans. Et ça, c'est très grave.
Ah, où c'est que vous mangez les meilleures frites, Édouard Baird?
Ah, il y a des très bonnes friteries dans le Nord, comme ça, qui sont... Et celles à la graisse de bœuf, elles sont formidables. Souvent.
Édouard Baird, qu'est-ce que vous disent les gens dans la rue quand ils vous reconnaissent?
Quand ils me reconnaissent alors, il dit bravo, monsieur Baird, on vous aime beaucoup.
Ce que vous faites pour le patrimoine.
Pour le patrimoine, c'est formidable. Mais non, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, ça dépend, parce qu'il y a plusieurs périodes, il y a des gens qui connaissent le monologue d'Astérix. Alors ils me disent, ça, il n'y a pas de bonne situation. Je dis, en effet, moi, je ne sais pas quoi dire à ça. Non, mais ça dépend de... Oui, où il y a des gens qui ont vu le spectacle. Non, mais, enfin, on fait surtout ces métiers pour... Ce qui est merveilleux, c'est quand les gens vous disent merci plutôt que bravo. Là, ça devient dingue, je trouve.
Ah ouais.
Là, ça devient... Là, c'est extraordinaire.
Si on vous dit, je peux prendre un selfie, vous répondez quoi, Norbert?
Eh ben, si je suis seul, oui. Si je suis avec ma fille ou quelqu'un, je dis, là, peut-être pas. Enfin, ma fille a peut-être autre chose à faire qu'attendre que son père fasse des photos dans la rue. Quoi.
À vous refuser?
Avec ma fille, toujours. Ah ouais. Oui, je trouve qu'on ne dérange pas une famille. Puis, ouais. Dans ces cas-là, on ne sort plus dans la rue si on ne peut plus être en famille, enfin, tranquille. Non, si je suis seul, il n'y a aucun problème.
Alors qu'Anne, elle demande à sa fille de prendre la photo.
Non, mais je trouve qu'il faut laisser. C'est pas agréable pour nos enfants d'être pris en otage par notre métier quand on sort dans la rue. Sinon, non, je trouve que c'est pas sympa. Non. Ou si je suis en train de parler avec quelqu'un, qu'on m'interrompt au milieu, J'aime pas des phrases comme la rançon de la gloire, je vois pas pourquoi on devrait payer quoi que ce soit, je sais pas.
Mais du coup, vous croyez pas que c'est un peu difficile pour votre fille que vous la preniez tout le temps avec vous dès que vous sortez? Elle a une vie aussi, quoi.
Non, mais l'idée qu'on doive des choses, on le fait ou par plaisir, je crois qu'on doit rien.
Vous faites que ce que vous sentez, Edouard Baird.
Mais vous savez, il y a tout un truc, on a l'impression, oh là là, il a la grosse tête, j'ai vu des grandes vedettes beaucoup plus populaires que moi, tout à coup, il y a des polémiques parce qu'ils ont refusé un selfie. Mais je sais pas, on sait pas, peut-être que quelqu'un de sa famille est malade, il a pas le droit de sortir dans la rue à cause de ça. Peut-être qu'il lui arrive un drame personnel, il doit sourire. On doit être sur scène dès qu'on sort dans la rue. Non, on n'est pas sur scène, on est dans la rue.
D'accord.
Voilà.
Vous allez vous
c'était... c'était le seul moment sérieux. De...
voilà. Cette colère. Toujours, je sens la colère monter.
Parlez d'autre chose, vous allez nous le fâcher.
Léa Landau a des questions à vous poser, Edouard Baird.
Oui, Edouard Baird, en fait, dans votre seul en scène, donc seul à deux, vous êtes dans le mauvais théâtre, mais vous vous accommodez quand même de votre nouveau public en restant fidèle à vous-même. Et je me suis dit, je suis sûre qu'il serait aussi frappé par la grâce s'il était au bon endroit, mais qu'il se prenait pour quelqu'un d'autre. Je vous ai donc préparé une interview dans la peau d'un autre, Edouard Baird. Par exemple, je sais pas, mais je me suis demandé si vous deviez tomber amoureux d'un écrivain, ce serait duquel ?
Tomber amoureux d'un écrivain ? Mais pour son écriture, pour...
Ah bah, pour tout.
Mais alors, il y a des écrivains... Oui, c'est ça, mais alors on lit quelqu'un... Il faut pas rencontrer les écrivains qu'on admire, je crois.
Ah
oui.
Ouais ?
Et il faut pas lire les femmes qu'on aime.
c'est
non,
vrai.
Non, mais je... Ouh là là, bon... Non, mais moi, vivre avec François Sagan, ça devait être délirant.
Ah ouais.
Parce que c'était une énergie de vie, une fantaisie, une liberté. Voilà, ça a été extraordinaire de suivre.
Et si vous deviez faire un concert de rock, ce serait dans la peau de quel rocker ?
Oh ben, Mick Jagger, évidemment.
Ah ouais ?
Évidemment, j'aurais voulu être Mick Jagger, vous avez vu. C'est délirant, faire les trucs avec la bouche en courant sur scène à 70 balais. Vous avez vu comme il bouge encore, Mick Jagger ?
Ouais, très sexy.
Ah oui, Mick Jagger, c'est énorme.
Et si par malentendu, vous étiez projeté dans le corps d'une femme célèbre, ce serait laquelle ?
Mais dans de son point de vue, elle. Parce que la phrase
non,
est dingue.
On s'entend. Hein, ouais, c'est ça. Bah, comme vous voulez, après tout.
Fabrice Luchini. Non, comment je veux dire ? Dans le corps d'une actrice célèbre ?
Ouais.
Vivre la vie d'une actrice. J'aimerais bien savoir ce que être Rihanna pour danser. Oui.
Ah ouais
oui. Un corps qui bouge, oui.
Et si vous étiez Emmanuel Macron, quelle serait la première phrase de votre allocution aux Français ?
Oh mon Dieu ! Non, ça, c'est pas lui. C'est moi. Non, ben, la première phrase, c'est que je rentre du Touquet, j'arrive. Laissez-moi deux secondes de vacances. Non, mais c'est très difficile parce qu'il faudrait. Il faut parler plus. Il faut qu'il y ait moins de communicants, surtout, il faut parler plus normalement.
C'est vrai. S'il ne vous restait plus qu'un dîner à vivre, Edouard Baird, vous aimeriez le passer en tête à tête avec qui ?
Ah, il faudrait. Ah, ben, avec la personne que j'aime.
Avec votre femme ?
Voilà.
Si vous n'aviez plus qu'une insulte autorisée pour le reste de votre vie, ce serait laquelle ?
Moi, je suis un fou des insultes très très simples, mais je trouve que des trucs comme merde, il y a vraiment, c'est rien. Mais après, on peut vraiment jouer avec. Il y a des intonations, etc. Parce que les insultes qui sont trop marquées, trop espèce d'enculé de fils de pute, il n'y a pas énormément de variations. Il n'y a pas de variations, quoi. Ça se dit droit,
ouais,
tandis que des merde, ta gueule, merde. Mais il y a un merde, il y a merde, il y a le oh merde, il y a des merdes doux, il y a le merde, oh merde. Et là, on peut vraiment passer beaucoup de temps avec merde.
C'est vrai qu'il y a des merdes dures et des merdes molles.
Tout à fait. Des longs, des courts.
Alors si Edouard Baird devait...
Je suis une déception totale chez ma voisine.
Non, pas du tout, je suis toujours très admirative quand il s'agit de merde. Tout va bien.
Elle a tenu à être là, Christine Bérou. Bah oui. C'est une fan. Hein.
C'est vrai. Bah maintenant, je suis mal à l'aise. Non, mais c'est vrai.
De toute façon, t'es tout le temps mal à l'aise.
Elle était dans la salle hier, d'ailleurs.
Oui. Mais même on s'est croisés après. Vous m'avez fait la bise et après, je me suis pas lavée. Bref.
Moi, c'est avant que je...
Bon, si Edouard Baird devait le temps d'une journée être un autre Edouard, ce serait lequel ? Edouard Philippe, Edouard Balladur ou Edouard aux mains d'argent ?
Ah, Edouard aux mains d'argent, Johnny Depp, ça doit être période Edouard aux mains d'argent, ça devait être... Moi, j'étais fasciné à l'époque par le coup d'Edouard Balladur.
Ah oui ?
J'avais très peur. Oui, j'avais très peur en vieillissant d'avoir énormément de mentons. Il y a des dessins de Gottlieb, on disait, on lit l'âge d'un violoniste au nombre de ses mentons, comme ça. J'avais peur. Alors oui, alors Edouard Philippe, ça doit pas être très confortable. Non, oui. non pas de politique, surtout pas
non,
de politique.
Okay. Non. Alors bon, bah si vous étiez un fabricant de gilets, vous préféreriez fabriquer des gilets jaunes, des gilets de sauvetage ou des gilets pare-balles ?
Oh, que des pièges. Que de l'internet, que du tweet derrière.
Il n'y a pas de piège.
Écoutez, du gilet jaune ou du gilet pare-balle ou gilet verbal ou du gilet.
Merde.
Et le troisième, c'était quoi ?
Gilet de sauvetage.
Non, le petit gilet de flanelle quand on vieillit, voilà. Pour avoir un petit peu chaud. Mets ton petit flanelle. Je te dis, non, regarde-moi. Je te dis de mettre. Tu es branché, tu es appareillé. Oh, écoute. Lis sur mes lèvres. Est-ce que tu étais chez Madame Roumanoff? Non, la dame que tu aimes bien. Oui, tu as été à son émission. Comment ça s'est passé? Ils t'ont posé la question. Oh non, 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 non.
Bon, si on devait vous interpeller autrement que par votre nom et prénom dans la rue, Edouard Baird, alors à part Berne, vous aimeriez qu'on vous appelle comment?
J'ai des choix ou pas, non?
Non.
Très simplement, maître,
majesté,
patron majesté. Non, non, républicain, maître. Ouais,
votre grâce.
C'est comme les gens qui disent, écoute, on va pas se vous voyer. Ah si, 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 ah, si, c'est avec plaisir, avec plaisir.
Oui, et enfin, Edouard
Baird. Non, ça vous arrive pas. C'était quand on est humain, ils disent, je vais pas, on se tutoie. Oui, oui, mais enfin, c'était quoi notre proposition? Pas se vous voyer? Allons-y. Ah, on se tutoiera juste après, demain. On va être potes, dès qu'on est potes. Oui, il a la grosse tête, bébé. Il veut pas faire de selfie, il veut qu'on le vous voie, il est rendu fou.
Bah pour finir, Edouard Baird, si vous étiez Anne Roumanoff, que diriez-vous d'Edouard Baird?
Qu'est-ce qu'elle dirait?
Ouais, si vous étiez Anne Roumanoff, que diriez-vous d'Edouard Baird?
Qu'est-ce que je dirais? Oula, c'est trop compliqué. Trop compliqué. trop de suppositions. Si machin était ça, un truc à la place de truc à là. Si Anne Roumanoff n'était pas un autre prénom et pas le même Anne Roumanoff, et c'était pas vous, mais quelqu'un qui se fait passer pour vous, mais dans une autre situation que celle-là, dans une émission qui n'est pas celle-là, parce que c'est pas vrai, dans une sauce d'irréalité qu'on recréerait là, si c'est une autre émission d'une autre radio qui marche même, qui marche moins bien, parce que le repas peut tout à fait revenir, parce qu'Arnaud Lagardère, il y a une motion de censure sur lui. Et alors donc à ce moment-là.
Merci Edouard Baird d'être passé nous voir. Dans son livre Combat de femmes, elle raconte ses combats et surtout ses victoires contre le sort. Première femme en France à être licenciée dans un club de boxe, cette jeune maman intègre ensuite Sciences Po et devient chef d'entreprise, une battante aussi engagée contre les violences faites aux femmes. Elle lance sur le ring, une ovation pour Sarah Ouramoun. Bonjour, Sarah Ouramoun. Alors ce livre, Mes combats de femmes, chez Robert Laffont, vous parlez de vous, de votre histoire dans ce livre?
Exactement, je raconte un peu tout mon parcours de l'enfance jusqu'au Jeu de Rio en 2016, avec du rêve, mais aussi pas mal de combats sur le ring et hors du ring.
Dans la vie aussi, vous êtes battue, vous avez la sensation que tout ce que vous avez eu, vous l'avez gagné à la force du poignet?
Oui. Après, j'ai toujours été très douce en dehors du ring, mais très engagée.
Parce que quand on vous voit comme ça, on a du mal à penser que vous êtes championne de boxe quand même.
Ça arrive, c'est vrai que...
J'ai pas envie de tester quand même.
Vaut mieux pas.
Parce qu'en plus, vos titres sont quand même assez impressionnants. Hein. Vous avez gagné... Rappelez-nous vos titres.
Alors, j'ai été 10 fois championne de France, 3 fois championne de l'Union Européenne, championne du monde et vice-championne olympique.
Et qu'est-ce qui donne envie de faire de la boxe quand on est jeune fille?
Je ne m'imaginais pas du tout boxeuse ni championne. Ça a été vraiment par hasard. Je suis passée devant une salle de boxe et j'y suis entrée par curiosité. J'ai adoré l'ambiance.
Parce qu'il y avait un beau mec dedans ou juste...
Même pas, elle était vide.
C'est vrai.
Non, c'est vraiment l'envie de frapper sur un sac.
Vous avez de l'agressivité en vous alors quand même?
Même pas, parce que j'ai dû apprendre à être agressive. J'ai pris un préparateur mental pour développer mon agressivité, parce que justement, je montais sur le ring avec le sourire, enfin vraiment contente d'être
trop
là.
Trop sympathique.
Trop sympa. Par contre, j'aime la belle boxe, le beau geste, et ce que j'aimais, c'était vraiment mettre en place des stratégies de jeu, de combat, trouver la faille, feinter, jouer un peu avec l'adversaire, un peu comme on peut faire dans un jeu d'échecs.
Vous connaissez tous les Rocky par cœur?
Même pas. J'ai regardé au début. Alors, ma mère m'a forcé à regarder les Rocky pour convaincre d'arrêter la boxe en me disant « Regarde, tu vas avoir le nez cassé. Ouais. »
C'était la hantise de votre mère que vous ayez le nez cassé?
Ma mère avait peur de ça. Ouais. Elle était persuadée qu'on allait me défigurer, que j'allais jamais me marier. Enfin, la totale.
Vous étiez une famille avec beaucoup d'enfants, Sarah?
On est 6 enfants, 3 filles, 3 garçons.
Et dans 20 mètres carrés, c'est ça?
Oui.
Et vous étiez la plus respectée de tous, j'imagine, non?
Ah, il y avait un peu de concurrence avec mon grand frère, il ne se laissait pas faire.
Et là, vous tiriez au sort pour savoir qui dormait dans quel lit, en fait, c'est ça?
C'est ça. En fait, il y avait un lit plutôt sympa. Et puis, la pire des positions, c'était à l'entrée, où quand mon père remontait après sa journée de travail, il s'arrivait qu'il nous marche dessus ou qu'il tombe sur nous. Donc voilà, c'était le perdant qui gagnait cette
place. Bien là, l'agressivité, non?
Même pas. Non, malheureusement, c'est ma petite sœur qui s'est retrouvée souvent à cette position parce qu'on trichait quand on jouait, et voilà. C'était
la
moins maline.
Au sort.
Oh non, la pauvre.
Et après, combien de temps vous avez vécu dans ce studio à 6?
Alors, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 12 ans. Et puis après, je suis partie à Aubervilliers. Et c'est là que j'ai découvert le taekwondo. Puis après, la boxe.
Et alors là, vous, vous essayez d'être le moins possible chez vous quand même, et vous faites vos devoirs dans la salle de boxe.
Oui, c'est vrai que cette salle, ça a été presque ma deuxième maison. J'ai découvert une vraie passion pour la boxe, je suis tombée amoureuse de ce qu'on appelle le noble art. Et quand j'étais là-bas, je faisais mes devoirs, j'enchaînais avec les
entraînements. Mais tenir un stylo avec le gant, ça va, enfin, c'est...
On s'habitue, on ouais, ouais. C'est comme le protège-dents, au début on bafouille, c'est on compliqué. Bave, et puis après on maîtrise.
Ah bah fais faire papi là.
Et alors après, donc, vous avez créé votre entreprise et vous avez intégré une filière à Sciences Po pour devenir entrepreneur. Comment ça s'est passé ?
Alors, j'ai intégré d'abord l'école de communication. J'avais envie de travailler en agence, enfin, peut-être de publicité. Et puis finalement, je me suis dirigée vers l'entrepreneuriat. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des vrais parallèles avec la compétition, ouais. La boxe, dans la recherche de l'excellence, dans l'affrontement, dans le faire face à la concurrence, etc. Et du coup, j'ai eu envie de lier ma passion pour la boxe avec cette nouvelle passion pour l'entrepreneuriat.
Vous avez fait votre entretien par Skype tellement vous étiez épuisée après votre accouchement, c'est ça ?
Pour entrer à Sciences Po Entrepreneur, il y avait un oral. Et donc, j'avais fait toute une année où il y a tout un parcours où il faut présenter à chaque fois une partie de son projet. Et l'oral final de sélection était prévu le jour où, de mon accouchement. Et moi, j'étais persuadée que j'allais pouvoir y arriver. Donc, j'ai accouché 3 jours plus tôt. Et la veille de l'oral, j'étais complètement épuisée. Mon projet de départ, c'était d'aller à Sciences Po. Il y avait 20 minutes de métro. Je me suis dit, j'y vais vite fait, je fais mon oral, je reviens, ni vu ni connu. Et en fait, j'étais crevée. Donc, je les ai sollicités en disant, mais on peut faire ça par Skype. Et ils m'ont pris pour une folle. Ah ouais. Ils ont fini par venir à la maternité en me disant, OK, on se calme.
C'est vrai.
Et on reporte l'oral dans 2 mois. Et donc, tout le monde a repassé l'oral dans 2 mois à cause de moi.
C'est vrai.
Mais voilà, tout s'est bien passé.
Et donc, le mental de boxeuse joue quand on passe des oraux comme ça, si important ou...
Je pense que ça aide dans la gestion du stress.
Qu'est-ce que ça fait ? Vous êtes née dans un milieu quand même très pauvre, Sarah ou Ramoun, parce que vous étiez assise dans 20 mètres carrés. Et après, vous dites que vous avez essayé très vite de gagner de l'argent, de l'aide scolaire, vous travaillez sur les marchés. Le samedi matin, vous vendez des légumes. L'après-midi, vous faites le tour des épiceries pour liquider ce qui reste de légumes. Mmh.
Il n'y a pas le choix. Hein. Et puis, c'est vrai que j'avais une mère qui avait un discours assez fort où elle me disait, voilà, il faut se lever le matin et travailler. Et puis, il n'y a que aussi par l'école que tu pourras t'en sortir. Et j'ai tout de suite eu envie de...
Votre maman était aide-soignante.
Ma mère était aide-soignante. Elle travaillait beaucoup. Et c'est vrai qu'elle m'a tout de suite...
Mis au travail.
On n'a que ce qu'on gagne. Donc, tu ne peux pas rester assise devant la télé et attendre que le plat vienne sur la table.
Maintenant, vous avez une vie plus confortable. Comment vos parents vivent votre réussite, Sarah ou Ramon ?
Ils sont très fiers, très très fiers. Alors, ma mère me dit souvent qu'elle ne comprend pas ce que je fais. Mais elle me dit je ne comprends rien, mais ce n'est pas grave, je suis fière.
Il y a en vous une dimension humanitaire, Sarah ou Ramon, parce que vous êtes aussi très investie dans le combat contre la violence faite aux femmes, parce que vous avez perdu une amie qui a été tuée par son mari.
Non, c'est pas une amie, c'est une fille que j'ai eue sur un team building box dans une entreprise. C'est la boxe qui m'a fait prendre conscience de la place des femmes dans la société. Peut-être malgré moi, c'est-à-dire que je suis pas montée sur un ring en me disant je fais ça pour les femmes, je vivais juste ma passion. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait des vraies inégalités et qu'aujourd'hui, peut-être qu'avec une médaille olympique, on a une voix qui porte beaucoup plus et que je fais peut-être office de rôle modèle. Donc il faut pouvoir utiliser cette médaille à bon escient.
Mickaël Quiroga a des choses à vous dire, Sarah ou Ramon.
Bonjour Sarah.
Bonjour.
Alors je suis ravi de vous rencontrer, je crois que vous êtes la première championne que je rencontre dans l'émission. Alors bien sûr, des champions on en a à cette table, hein, mais rien de comparable avec vous. Vous êtes médaillée dans la plus prestigieuse des compétitions, les Jeux Olympiques. Mmh. Vous êtes vice-championne olympique, je veux dire, alors que nous, bon, on a Benache, qui est plutôt champion olympique du vice. On peut dire que la boxe est à la mode, tout le monde s'y met. Même Benache, ici présent, il s'est mis à la boxe, il est venu au club. Ouais. Si, c'était un mercredi, hein. Bon, normal, vu le gabarit, on s'est dit que c'était mieux de le faire venir le jour des enfants. Il faut savoir qu'en boxe, toute la différence entre les championnes et les autres se fait à l'entraînement et au niveau de l'hygiène de vie. Et celle de Sarah Ouramoun est irréprochable. Moi, j'ai vu son emploi du temps. 5h du matin, Sarah Ouramoun se réveille. 5h01, elle se tourne vers son homme allongé près d'elle, elle lui sourit et lui demande comment il va. 5h03, elle s'hydrate avec un demi-litre d'eau tout en relisant les épreuves de son livre Mes combats de femme. 5h10, elle boucle un jogging de 10 km. 5h17, Sarah est de retour à la maison, elle a battu son record. 5h20, elle se douche. 6h du matin, direction la salle de boxe et entraînement jusqu'à midi. Vous voyez, ça c'est Sarah. C'est sûr que si on compare avec l'entraînement de Benache, 5h du matin, Benach se réveille. 5h01, Benach se recouche. 8h04, Benach se re-réveille. Il se tourne vers la femme allongée près de lui et lui demande « Qui es-tu ?» 9h05, il se décide enfin à aller faire son jogging de 1 km. 15h08, Benach est de retour, c'est le SAMU qui l'a ramené. Ça n'a aucun rapport. La différence, c'est que lorsque Sarah frappe dans le sac, ensuite, faut recoudre le sac. Alors que quand Benach frappe dans le sac, ensuite, faut recoudre Benach. Et c'est cette différence qui fait que Sarah Ouramoun est aussi 10 fois championne de France et championne du monde. Il faut savoir que beaucoup de monde ont du mal à seulement comprendre le principe même de la boxe. Hein. C'est vrai que certains peuvent se demander ce qui peut pousser deux personnes à se taper dessus sans raison, alors qu'elles n'ont rien à se reprocher l'une à l'autre. Bon, bah Sarah, vous n'êtes pas méchante. Hein.
Pas du tout.
Bah voilà, c'est la faute des entraîneurs, en fait. Ils leur interdisent les sorties, l'alcool, le gras, le sucre, les bons gueuletons, le sexe. Faut quand même avouer qu'ils font tout pour vous énerver. Sarah Ouramoun, aujourd'hui, vous ne boxez plus. Vous êtes orientée vers le coaching, le bien-être, le sport et la santé par le truchement de la boxe, entre autres. Hein. C'est vrai que sur un ring, on apprend le contrôle de soi. Ça, c'est un truc qui peut intéresser la patronne. Parce que je ne sais pas si vous
je
êtes
suis
au
très,
courant.
Très maître de mes nerfs.
Bien sûr, bien sûr. Sauf devant une boutique Léonidas. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant. Mais elle a un petit problème de chocolat, la patronne. Vous voyez, alors, l'avantage avec la boxe, c'est que, bon, soit elle est bonne et elle y laissera ses kilos superflus, soit elle est mauvaise et elle y laissera sa mâchoire. Dans les deux cas, plus de problème de chocolat. Alors, vous êtes aussi engagé pour les JO de 2024. Ils ont débloqué même, je crois, 20 millions d'euros pour la recherche afin d'améliorer les performances de nos champions. C'est ça, hein ?
C'est ça.
À mon avis, si vous voulez les faire courir plus vite, faut pas mettre les 20 millions sur la recherche. Faut les mettre sur la ligne d'arrivée. Voilà, Sarah Ouramoun, si vous en avez fini avec les combats de boxe, vous continuez de combattre dans d'autres domaines et votre livre Mes combats de femmes en est l'illustration. Un proverbe arabe dit ne jugez pas le grain de poivre à sa petite taille, parce que vous faites 1m58 seulement. Voilà, il dit goûtez-le et vous sentirez comme il pique. Et c'est ce que vous avez fait, vous avez piqué toutes vos adversaires jusqu'à vous hisser au sommet de votre art, vous avez valeur d'exemple. Alors en guise de conclusion, je vais tout simplement applaudir la performance.
Merci.